Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, la reine, l'émission d'information locale de Canal B s'apprête à commencer. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, c'est le groupe West France qui candidate pour décrocher une fréquence sur la TNT. Un reportage sur l'étonnant voyage qui est en cours vers Saint-Malo pour défendre les droits humains. Il y aura de la musique dont une nouveauté, une interview avec Ulysse Rabaté, chercheur en sciences politiques et auteur de Streetologie, savoir de la rue et culture politique. Et puis deux recommandations pour terminer, information et commerce équitable, bienvenue dans la reine. Et c'est parti, on lance l'émission d'information locale avec l'info du jour, une que j'ai sélectionnée parmi d'autres dans l'actualité locale. Là, c'est l'agence France Presse qui l'a appris hier. Le groupe West France se porte candidat à une fréquence de la TNT, la télévision numérique terrestre. 15 fréquences télévisées donc sont remises en jeu pour 2025. C'est le cas notamment de CNews et C8, au cœur de plusieurs polémiques récentes. Les chaînes de l'homme d'affaires Vincent Bolloré pourraient donc voir leur avenir reconsidéré. Et parmi les nouveaux prétendants, on retrouve le milliardaire Daniel Křetínský, c'est le patron du groupe de presse tchèque CMI, mais aussi de la maison d'édition française Editis et du groupe Casino. On continue avec les candidats. Surprise, il y a aussi West France, groupe qui a son siège à Rennes, en Bretagne, et déjà actionnaire de télévision et radio locale comme TV Rennes et It West. Cette candidature, elle intervient dans un contexte de crise de la presse. Alors peut-être peut-on voir ici la volonté du premier quotidien de France d'étendre son champ d'action. L'ARCOM, ex-CSA, c'est le régulateur de l'audiovisuel, eh bien, elle doit maintenant examiner la recevabilité des dossiers et entendre les différents postulants. Rendez-vous fin juillet pour connaître le résultat de cette course à l'écran. Allez, après cette info du jour, place à un reportage. Et c'est un reportage réalisé à quatre mains que vous allez entendre, les miennes et puis celles d'Ambre, étudiante en stage venue de la SCOL. Mardi, entre deux averses, on était à la Maison du Canal, du côté d'Edé Bazouge, pas très loin de Rennes. C'était le point d'étape déjeuner pour les marcheurs de l'étonnant voyage. Un périple d'environ 100 km à pied entre Rennes et Saint-Malo pour défendre les droits fondamentaux des personnes exilées et ou en situation de précarité. L'arrivée, elle est prévue samedi sur le festival Étonnant Voyageurs. Le détail, c'est maintenant.
Ils ont tous pris une douche ce matin, chaude à Guipel, donc peut-être ils ont
pas. Ça serait sage. Alors on est à la Maison du Canal et les marcheurs vont arriver dans pas longtemps et c'est là où ils vont déjeuner avant de gagner Emmaüs où il y aura toutes les animations. Alors Pascal, je suis bénévole à Étonnant Voyage et je suis dans l'organisation générale et aussi référente avec d'autres de l'étape de Edé.
Joël, bah pareil que Pascal dans l'organisation générale de l'étonnant voyage. Alors le premier étonnant voyage a eu lieu en 2019. En fait, l'idée est venue d'ateliers de poésie qui réunissaient des personnes exilées et des personnes françaises tout en situation de précarité, donc qui ont commencé par mêler leur voix dans un recueil de poésie et qui ont fait connaissance. Il y a beaucoup de fantasmes qui sont tombés, etc., des amitiés qui se sont nouées. Et l'idée a germé de faire quelque chose ensemble, français et étrangers, pour défendre les droits fondamentaux. Donc quoi ? Une marche, donc on marche tous ensemble de Rennes à Saint-Malo le long du canal d'Illérance sur 8 étapes.
On a fait un livre, nous les précaires, enfin les personnes en situation de précarité, et on a créé quelque chose, un objet livre avec des poèmes, et donc on va aller l'apporter à Étonnant Voyageurs, le festival.
Il y a quand même un contexte particulier cette année, même si c'est en cours depuis plusieurs années, d'une politique autour de l'asile qui se durcit. On imagine que votre message, du coup, doit être porté encore plus fort, on le dit comme ça.
De toute façon, la paix se prépare en temps de paix, donc le message, on a essayé de le porter fort dès le début. Et puis, ben, on voit bien que la situation se tend avec des mesures gouvernementales extrêmes, à la fois pour les exilés à travers la loi scélérate dite Darmanin, mais pas que, aussi vis-à-vis des personnes françaises, avec l'obligation d'esclavage gratuit de 15 heures par mois pour ceux qui ont le RSA, avec la diminution des allocations chômage, etc. etc. Donc c'est un faisceau convergent qui vise en fait à augmenter les injustices pour dégager plus de profits pour les puissants. Et comme, évidemment, on ne peut pas le dire comme ça à la population française, il faut trouver des boucs émissaires. Donc les boucs émissaires, c'est bien sûr en premier lieu les exilés, et puis les pauvres en général. Et nous, à Étonnant Voyage, on part du principe que, en fait, toutes les personnes opprimées ont les mêmes intérêts et devraient être tout au coude à coude.
On ne va pas tout faire. Alors en plus, je ne veux pas avoir l'air de rien du tout, quoi, mais... Vous êtes quand même levé super tard, les marcheurs. Du coup, il est 13h30 et vous n'avez même pas commencé à manger. C'est vrai ? Bon, en tout cas, vous allez manger, ça va être super bon, donc mangez tranquille, mais tardez pas à arriver là-bas, il y a plein de trucs qui vous attendent. Voilà.
Merci.
On dit un peu qui on trouve, alors parmi les marcheurs et puis parmi les organisateurs, puisqu'il y a vraiment une organisation qui est collective, on retrouve différentes structures qui sont représentées.
Alors il y a plusieurs choses, il y a les associations, les partis, les syndicats, les collectifs qui soutiennent Étonnant Voyage, et ça c'est autour d'une cinquantaine. Et ça représente un grand éventail de l'échiquier politique, à gauche quand même, parce que voilà. Mais ça va de, je sais pas, il y a le Secours catholique, il y a TD Carmonde, il y a UTUD, il y a le MRAP, il y a
les anarchistes,
voilà. Et à l'intérieur de toutes ces structures, il y a des bénévoles, des militants qui travaillent avec nous. Tout est basé sur le bénévolat, y compris les artistes qui vont participer, etc. Dans les bénévoles, il y a beaucoup de sortes de gens. Il y a pas mal de retraités quand même, il faut dire. Et puis, pendant la marche, par contre, il y a plein de jeunes et de gens non retraités qui nous rejoignent, quoi. Et ça, c'est vraiment bien. Et puis, les marcheurs, par exemple, aujourd'hui, ils sont une cinquantaine.
80 à peu près, je pense.
À 80,
oui.
D'accord.
Le principe aussi, c'est qu'on peut faire toute la marche ou qu'une partie. Donc, il y a des gens, par exemple, je pense à certains exilés qui avaient des démarches administratives importantes à faire aujourd'hui. Ils ont marché avec nous jusqu'à hier et ils nous rejoignent ce soir. Donc le nombre est complètement fluctuant. Ça va de 80 à 120 marcheurs par jour, quoi.
Et le soir, beaucoup plus. En fait, c'est une formule, si on veut, très très souple. C'est-à-dire qu'on fait des covoites, on accompagne les gens. Donc tout est possible. Une petite marche d'une journée, les 8 jours de marche, venir qu'au spectacle, venir au repas. Enfin, tout est possible, quoi.
Mais il faut s'inscrire sur le site Étonnant Voyage.
C'est encore possible.
C'est encore possible. Alors, on demande, dans la mesure du possible, à s'inscrire 2 jours avant l'étape. Parce que, notamment pour les repas, pour prévoir l'achat de la nourriture, le midi et le soir et au petit déjeuner, puisque le midi, ce n'est pas des pique-niques, ce sont des vrais repas. Vraiment, on tient à remercier, à préciser que c'est une cantine solidaire, donc une cantine végane, qui est tenue par des bénévoles, qui nous suit sur tout le trajet et qui nous offre des repas
très
succulents tous les midis.
De haut de gamme,
oui. Haut de gamme, oui.
Et j'ai juste une question que j'ai oublié de poser, c'est est-ce que vous sauriez me dire quelles nationalités sont représentées dans le cortège des marcheurs ?
Nazim Hikmet a dit « Le pays que je préfère, c'est la terre ». Donc nous, on est sur cette ligne-là. Donc on s'en fiche, en fait, des nationalités, mais il y a des gens des quatre coins du monde et des quatre coins de la Bretagne et de la France. Voilà.
J'avais une question sur l'ambiance. Dans quelle atmosphère se déroule ce temps de la marche, donc là qui est quotidien pendant plusieurs jours. Est-ce que ça se passe dans le silence ou est-ce qu'il y a différents groupes qui se forment avec différentes dynamiques?
Il y a sûrement des moments de silence pour certains. Il y a des moments de rencontre, de partage. Il y a des moments de rire, de chant, de danse. Par exemple, le premier pas, je me rappelle, on a mangé dans le squat du canal où les gens nous ont reçus. Donc les dames géorgiennes et africaines nous avaient préparé des choses succulentes. Et là, il y a eu des moments un peu miraculeux, mais qu'il y a tout le temps avec Étonnant Voyage. Il y avait Craig et Denise, qui sont des chanteurs de musique un peu savante, géorgienne. Et donc là, avec les dames géorgiennes, il y a eu des échanges, des danses et des chants magnifiques. Enfin, pas que les dames, mais des hommes aussi, y compris des Africains qui se mélangeaient, des Français. Et c'était super émouvant. Moi, je trouvais ça magnifique. Et des moments comme ça, il y en a tout le temps. Voilà, c'est ça qu'on aime bien.
Alors, il faut préciser qu'en fait, l'Étonnant Voyage n'a lieu qu'une fois tous les deux ans. D'abord parce que c'est une grosse machine à mettre en place, notamment du fait que comme notre priorité c'est vraiment d'offrir et de travailler avec les personnes en situation de précarité, on fournit tout gratuitement, y compris le matériel de camping, transport, repas, tout. En plus, entre deux marches, on fait aussi des activités de formation à la vidéo, en lien avec le comptoir du doc, à la photo sténopée, des ateliers de poésie, etc. Donc deux ans entre deux marches, ce ne sont pas deux années vides, déjà. Et c'est la troisième édition de l'Étonnant Voyage. Donc maintenant, bon, on a quand même un bon carnet d'adresses, on va dire, et les municipalités qui sont très accueillantes, tout le long du chemin, vraiment très très accueillantes, y compris quand la météo n'est pas terrible comme cette fois-ci, où les municipalités se décarcassent avec les associations pour nous héberger en dur la nuit, puisque là, le camping, c'est quand même un peu rock'n'roll.
Voilà. On peut redire dans quelle commune vous vous arrêtez ?
Alors là, c'est la commune de Aidé-Bazouge.
Après Aidé-Bazouge,
c'est Québriac.
Après Québriac, c'est Saint-André-des-Eaux. Après, c'est la Vicomté. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on est obligé de se scinder en deux. C'est un peu sportif la fin au niveau marche. Donc les bons marcheurs pourront aller jusqu'à Plouer, où là, ils seront accueillis par la mairie et transportés en bus vers Saint-Malo. Et ceux qui seront fatigués resteront à la Vicomté et seront récupérés par un bus aussi pour être emmenés aussi à Saint-Malo, à la plage des Bas-Sablons.
Je voulais dire aussi qu'il y avait des cars qui allaient prendre les familles des quartiers populaires pour le week-end. Et ça, c'est un grand moment aussi. Et eux, ils vont avoir la joie de prendre la navette en bateau pour aller de Dinard à Saint-Malo.
Pas trop mal aux jambes ?
Non, ça va. Bon, moi, je m'appelle Mohamed, j'ai 21 ans et j'habite à Aidé-Bazouge, précisément à Emmaüs, Aidé à Rennes, Saint-Malo. Moi, je suis malien.
Vous êtes arrivé quand en France ?
Ça fait quelques années. Et je participe à la marche. Déjà, je n'étais pas au courant, mais grâce aux informations d'une bénévole qui s'appelle Pascal. Donc, elle m'a un peu expliqué comment ça se passait et tout, et pour la cause. Donc, je me suis dit, ouais, vu que je suis un peu aussi dans cette situation, je vais marcher avec mes deux autres collègues.
Depuis quand vous êtes à Emmaüs, qui est juste à côté, et qu'est-ce que vous y faites ?
Bon, ça fait un an et quelques maintenant, et je fais de l'électromécanique. Je répare des petits appareils et ensuite, des fois, je fais de la vente. À Emmaüs, il y a beaucoup d'activités qui sont proposées. Ça dépend de ce que tu veux faire parce que c'est pas obligatoire. Bah, vu que les activités, il y a électromécanique, il y a du bric-au-broc, il y a les meubles, il y a aussi du bibelot, il y a aussi du tri. Et il y a le poilure aussi qui ramène des trucs pour trier. Et aussi les dons. Il y a un endroit pour accueillir les donneurs. Pour l'instant, je suis bien Emmaüs. Je suis bien avec mes collègues. Tout le monde est gentil. Surtout les responsables, ils sont trop gentils. Ils donnent des bons conseils.
Vous pouvez me dire un peu, me raconter le groupe avec qui vous marchez. Vous êtes trois, c'est ça ?
Non, on est deux. Je suis avec un collègue, il s'appelle Expedi. Mais les autres, je pense... sont pas trop dedans, je sais pas, mais avec lui, on s'est dit, vas-y, on va faire la marche.
Est-ce que vous aviez déjà marché sur une aussi longue durée, quoi ?
Non, j'ai jamais fait ça.
Est-ce que c'est difficile ?
Non, ça va. Au tout début, ouais, la première marche, ça a été un peu compliqué. Je sentais des petits piquements au niveau des jambes et tout. Mais là, je commence à m'habituer, ça va.
Vous allez jusqu'à Saint-Malo ?
Oui, je vais jusqu'à Saint-Malo, ouais.
Qu'est-ce qui, dans le projet de l'Étonnant Voyage, qu'est-ce qui vous a parlé quand Pascal vous a proposé d'y participer ?
Bah, vu que c'est pour une bonne cause, je vais dire. On a aussi vu les films de l'année 2022. Donc, ça m'a vu que j'ai vu cette tempête sans pas, j'ai dit vas-y, je vais passer. Hein.
Ah oui, vous avez vu le film qui avait été réalisé lors du dernier voyage.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette cause-là?
Du jour à la marche, ça fait du bien, on est d'accord. Et en plus de ça, c'est pour les personnes en situation un peu délicate aussi.
Vous êtes en, comment dire, en situation de précarité, vous le diriez comme ça
ou... Moi, on peut dire ça, ouais.
Comment ça se passe quand vous marchez? Vous parlez? Vous écoutez de la musique? Vous faites quoi?
Comme je suis avec mon collègue, des fois on discute. Mais des fois, quand je vois qu'on marche très lentement, je mets de la musique et je pars devant, je commence à marcher, ouais, pour me distraire.
Et est-ce que c'est long?
Non, parce que souvent je regarde le GPS. Comme ça, je me dis, ouais, il me reste que quelques bornes à faire et puis c'est tout.
Irène Cerchetti, pourquoi je suis là aujourd'hui? J'ai fait une bonne partie de la marche il y a 2 ans. Ça m'avait beaucoup plu. Je savais qu'une nouvelle marche se préparait. Nous avons tenté d'y contribuer à la préparation à Dol de Bretagne, bien qu'on ne soit pas exactement sur le trajet. Mais bien sûr, ça s'imposait de venir faire le plus d'étapes possible.
Et comment vous vivez ce moment ?
Moi, j'aime toujours beaucoup parce que en marchant, on fait des rencontres qu'on ne ferait pas sinon. Et puis, ce système de se retrouver toujours au moment des repas et en soirée. D'abord, personne ne reste sur le bord de la route. Hein. On est sûr qu'on rassemble bien tout le monde. Et puis, cette variété de personnes qui participent, c'est toujours très, très enrichissant. Donc, moi, j'aime beaucoup.
Vous marchez depuis combien de temps maintenant ?
Mon compagnon et moi, on fait des petites incursions dans la marche. On ne reste pas dormir sur place, par exemple, mais on a tenu à faire le départ à Rennes parce qu'on est très visible, on a fait du bruit, bon, c'était important. Et là, on est à la 4e étape, je crois.
Est-ce qu'il y a une anecdote marquante qui s'est passée au cours de cette marche ?
Oui, alors celle d'il y a 2 ans en tout cas, oui. On avait rencontré quelqu'un qui faisait du sport et qui faisait du sport d'une manière non compétitive et qui entraînait d'autres gens à ce type de pratique sportive. Et il nous avait beaucoup détaillé le mouvement de sport populaire et on avait vraiment énormément échangé. Moi, je croyais que c'était une pratique qui n'existait plus et puis en fait, elle existe encore. Et ça, c'était une belle rencontre. Je ne l'ai pas revu cette année, pourtant année olympique ça aurait été le moment. Et puis cette année on a fait venir des amis qui viennent de beaucoup plus loin et qui avaient envie de participer et d'apporter aussi leur talent. À Dol de Bretagne, on est regroupé dans une association d'aide aux migrants et à leurs accompagnants. Pour nous, c'est important de nous connecter à d'autres réseaux qui ont cette attention aux personnes précaires en général et aux exilés aussi. Et donc, pour l'association Camadol, ça redonne un petit coup de fouet, un petit coup d'espoir, surtout sur le travail qu'on fait au quotidien. Quoi.
Avant que vous commenciez, je suis là en observatrice, je peux capter du son pendant que vous vous enregistrez ?
Ben moi, ça ne me dérange pas. Keïta, poème première.
La peur, c'est comme un enfant sans ami qui cherche votre main.
Et à quoi va ressembler l'arrivée vraiment à Saint-Malo ? Donc on redit que l'étonnant voyage, c'est un clin d'œil au festival Étonnant Voyageur, même s'il n'y a pas de lien entre les deux événements. Mais donc vous vous rendez vers ce festival, et à quoi ça va ressembler à l'arrivée ?
On est officiellement reçu par le président Jean-Michel Le Boulanger. On a eu plusieurs réunions au cours de l'année et on est inscrit dans le programme. Enfin, il tenait vraiment à nous recevoir bien. Il va y avoir un échange de mots.
On va lui donner le livre.
Le livre de l'année. Qu'on a fait, voilà. On va faire des remerciements en chanson.
Au même moment, sur le sable, il y a des artistes qui vont écrire des mots ou faire des dessins sur le sable. Donc des artistes anonymes qui seront peut-être dans le futur révélés. Et aussi, il y aura une intervention d'Emmanuel Lepage, donc le dessinateur de BD. Et ensuite, on ira jusqu'au centre Kériaden à Paramé, où se déroulera la soirée, donc avec un repas et un concert. Et le lendemain, il y a une rencontre entre les poètes qui ont rédigé les livres précédents et le livre de cette année, à 16h45, à la salle Sainte-Anne, avec Yvon Lemaine. En fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on arrive à faire un bénéfice quand même très important, 15 000 euros quand même, hein, aux deux précédentes éditions, ce qui révèle quand même un fort soutien à ce type de démarche. Contrairement à ce qu'on veut nous dire que tout le monde serait pour l'exclusion, etc. En fait, c'est pas vrai. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont pour la fraternité, pour un autre monde possible. Et avec cet argent-là, on peut ensuite procéder à des aides d'urgence. Par exemple, on a donné plus de 6 000 euros au Secours Populaire pendant le premier confinement, juste pour l'aide alimentaire. On a financé la scolarisation d'enfants. Et puis l'autre volet, c'est qu'on aide à des projets artistiques émancipateurs, puisqu'on considère que l'art, c'est un moyen d'expression aussi et de revendication aussi. Donc on utilise aussi une partie des bénéfices pour ça.
Mohamed, poème 2.
L'asile, ce n'est plus avoir peur, c'est pouvoir dire ce que l'on pense, c'est pouvoir dire non quand tu ne veux pas.
Avec le morceau Big Congratulations sur Canal B. C'était une nouveauté musicale repérée par Yann, notre programmateur ici à la radio, et à retrouver sur un album Coat of Arms. C'est sorti le 4 mars chez Fat Cat Records, et c'est le 5e album de ce trio entre rock et pop venu d'outre-Manche. On les retrouvera, tiens, sur la scène du Pipe à la Pop Festival au Jardin Moderne le 7 juin prochain. Vous venez de les entendre, où ça ? Bien dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, qui se poursuit avec une interview. Ulysse Rabaté, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes chercheur en sciences politiques à l'université Paris 8 TV. Vous êtes aujourd'hui rennais, je ne dis pas de bêtises.
Exactement.
Et l'auteur d'un ouvrage dont on parle aujourd'hui et qui s'appelle « Streetologie, savoir de la rue et culture politique ». C'est sorti aux éditions du Commun, une maison d'édition qui est rennaise. On va continuer un peu à vous présenter. Vous avez été militant politique à partir de 2005, puis élu en banlieue parisienne pendant plusieurs années, notamment avec l'étiquette « La France insoumise ». Vous étiez conseiller municipal à Corbeil-Essonne, c'est ça, hein ?
Conseiller municipal d'opposition à Corbeil-Essonne. Alors l'étiquette, c'était une étiquette associative, hein, mais c'est vrai que par ailleurs, j'ai été candidat pour la France insoumise aux élections législatives en 2012, 2017 et 2018.
Alors le livre là dont on parle, c'est pas votre premier essai, vous avez publié en 2021 « Politique, Burke, les quartiers populaires et la gauche, conflit, esquive, transmission ». C'est donc ça le sujet qui vous travaille en tant que chercheur, d'abord la gauche et les quartiers populaires, et là on élargit un peu la réflexion politique avec cet ouvrage-là.
Alors ces deux livres évidemment ils se répondent, hein. Donc en effet en 2021 j'ai travaillé sur cette idée que j'appelle de l'illusion de la dépolitisation des quartiers populaires, hein. On croit qu'il y a un dégoût parce qu'on entend politique burk, mais il y a aussi beaucoup d'appétence pour la politique et beaucoup de créativité politique dans les quartiers populaires, et ce que j'ai essayé de travailler dans ce premier ouvrage, c'était l'idée que finalement la gauche avait peut-être un problème avec ces formulations politiques autonomes, originales, qui naissent dans les quartiers populaires et qui naissent parfois parce qu'elles n'ont pas le choix, en opposition avec les cadres traditionnels de l'engagement et donc avec la gauche. Et ce livre « Streetologie politique » vient poursuivre la réflexion, peut-être en travaillant une idée un peu plus profondément qui est celle d'une culture politique des quartiers populaires, et avec toutes les réflexions qui accompagnent cette idée de culture, hein, qui est un terme très lourd en sciences sociales. Et donc l'idée, c'est de travailler cette idée de culture en face de l'histoire politique des quartiers populaires français.
Donc on comprend que ce que vous essayez de faire, c'est de redéfinir le concept même de politique en vous intéressant à ce qui se joue dans les quartiers populaires, qui sont sous-estimés, voire ignorés, si on vous lit dans l'ouvrage. Et il y a cette urgence, mais qui en fait date pas d'hier, c'est le contexte de montée de l'extrême droite qui est évoqué dans l'ouvrage et qui s'articule avec une défiance montante pour la politique de parti, on va dire.
Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est une idée qui est importante dans le contexte politique aujourd'hui. C'est vrai que quand on fait de la recherche, ce qui est difficile, c'est que à la fois on travaille sur le temps long, hein, sur le temps, parfois sur le temps de l'histoire, et en même temps, évidemment que nos réflexions, elles se confrontent au contexte politique, parfois elles s'entrechoquent avec lui. Et c'est vrai qu'on traverse une période en France avec une surprésence de l'extrême droite, hein, qui n'est pas seulement une menace électorale, qui est aussi une présence dans le champ politique, une influence, notamment sur le discours politique qui est tenu au niveau de l'État. Et c'est vrai que la gauche, parfois, la gauche institutionnelle, paraît un petit peu désemparée à l'égard de cette montée de l'extrême droite. Et ce que j'essaye de souligner dans l'ouvrage, c'est qu'il y a des ressources dans la société française pour combattre l'extrême droite. Les quartiers populaires, par de multiples exemples, montrent qu'elles expérimentent comment on lutte contre les idées de l'extrême droite, comment en pratique on continue à apprendre à vivre ensemble. Hein, ce mot, peut-être qu'il faut essayer d'une certaine manière de le remettre à la mode et de remettre du contenu dedans. Et donc le livre défend l'idée qu'il faut mieux connaître les mobilisations citoyennes dans les quartiers populaires si on veut mieux lutter contre l'extrême droite.
Alors le livre, il est construit en deux parties, le risque du déni de la street comme lieu politique et les manières de le surmonter, ça c'est la première, et qui s'ouvre sur les émeutes de 2023 suite à la mort du jeune Naël, difficile de ne pas en parler. Ce que vous avez constaté, c'est la présence des absents, ça veut dire quoi ?
La présence des absents, pour moi, c'est une métaphore de la place des quartiers populaires, que j'appelle beaucoup dans l'ouvrage les quartiers de la banlieue et de l'immigration, hein, pour reprendre aussi l'intitulé du mouvement de l'immigration et des banlieues, le MIB, hein, qui a joué un rôle très important dans la constitution politique des quartiers populaires dans les années 1990. Ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il y a un paradoxe. À la fois, il y a une surprésence des quartiers, de leurs habitants, dans les débats politiques, mais aussi dans ce que j'appelle le paysage culturel français.
Et médiatique, depuis qu'on a les chaînes d'information,
voilà,
en continu.
Exactement, voilà, une surprésence, une hyperprésence, mais une hyperprésence qui est très orientée, malheureusement, et qui est orientée presque intégralement sous le prisme négatif. Et donc cette surprésence, elle coexiste avec une absence de légitimité politique. Voilà, et c'est ce que j'essaye de montrer avec cette expression de présence des absents, c'est qu'il y a des moments comme les émeutes ou les révoltes, on appelle ça comme on veut, où la présence et l'absence, elle rentre en contradiction. Et finalement, cette présence politique, elle devient inévitable. Et même dans les moments de stigmatisation et de délégitimation de l'action politique des quartiers, finalement, ils occupent une place centrale dans le champ politique. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment une idée très importante de l'ouvrage et de mes travaux de manière générale. C'est finalement essayer de révéler la centralité politique des quartiers populaires, qui est à la fois une réalité complètement déniée en même temps par le discours dominant. Et donc, en fait, mieux connaître les quartiers, encore une fois, c'est finalement mieux reconnaître cette centralité.
Et c'est là que les sciences sociales jouent un rôle important. C'est la question que vous vous posez ensuite dans l'ouvrage. Que peuvent les sciences sociales? Vous mobilisez à la fois Bourdieu, sociologue à la fois incontournable mais avec ses limites, et puis peut-être moins connu, l'anthropologue Alban Bensa, qui est un spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, collectivité d'outre-mer dont on parle beaucoup en ce moment. Là, votre ouvrage vient un peu percuter l'actualité, c'était pas prévu.
Voilà, tout à fait. Bon, c'est vrai que c'était pas prévu, en tout cas dans ces temporalités-là. Donc oui, je parle beaucoup de Pierre Bourdieu, qui est quand même un auteur très important dans mes recherches, et notamment qui continue quand même d'être, à mon avis, une référence très utile pour lire les tensions et les luttes qui traversent le monde social contemporain. Et en même temps, c'est vrai que j'ose l'hérésie de dire que c'est vrai qu'il y a quelques impensés chez Pierre Bourdieu, notamment sur la question des quartiers populaires. Et donc, il y a besoin, c'est à ça que sert la recherche aussi, il y a besoin d'enrichir, contredire, peut-être apporter quelque chose d'autre, sinon on n'écrirait pas des livres. Et c'est vrai qu'en mobilisant Alban Bensa, je mobilise vraiment, on va dire, une anthropologie plus ancrée sur le discours des populations colonisées, subalternes. Et donc, j'amène cette idée de la subalternité, de ce qu'elle peut apporter à l'analyse de la société française aujourd'hui. Et c'est vrai que Alban Bensa avait cette formule très, très importante, de dire que il fallait sortir de l'exotisme, y compris quand on étudiait des populations comme la population kanak et le peuple kanak à l'autre bout du monde. Et cette idée de l'impasse, finalement, de l'exotisme, elle résonne complètement avec ce qui est en train de se passer en Kanaki-Nouvelle-Calédonie. Évidemment, c'était pas le sujet au départ de notre interview, mais on peut pas ne pas en parler, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que dans la réaction qu'on peut appeler la réaction très conservatrice de l'État français aujourd'hui, il y a finalement une peur de l'invention politique du peuple kanak, et notamment de cette invention politique qui a pu se déployer dans le cadre des accords de Matignon depuis les années 80. Et finalement, moi, je vois beaucoup de correspondance entre cette peur de l'invention politique du peuple colonisé qu'est le peuple kanak et la peur de l'invention politique qui naît dans les quartiers populaires en France. Et de ce point de vue-là, il suffit de voir aujourd'hui le discours de l'État français à l'égard des jeunes kanaks qui se mobilisent en Kanaki-Nouvelle-Calédonie. On retrouve peu ou prou les mêmes mots quand il s'agit de qualifier les jeunes émeutiers dans les quartiers populaires en France.
Donc on le redit, la Nouvelle-Calédonie, collectivité d'outre-mer en ce moment qui vit des épisodes alors de violence, d'émeutes, on laissera aux auditeurs le choix du terme, après l'annonce d'une réforme électorale contestée par une partie de la population. On revient à Streetologie. Le deuxième chapitre de l'ouvrage, il s'intitule « La street, une culture populaire et politique ». Vous venez donc mettre en dialogue les théories critiques dont on vient de dire un mot avec des pratiques et des discours observé sur le terrain. Alors justement, c'est quoi ce terrain dont vous vous êtes nourri pour écrire cet ouvrage? C'est lié justement à votre expérience en tant qu'élu militant?
Oui, c'est vrai que mes recherches, elles ont cette particularité, même si je ne suis pas le seul dans ce cas, évidemment, de s'inscrire dans une expérience personnelle. C'est-à-dire que moi, j'ai une expérience de militant politique en banlieue parisienne, et c'est de cette expérience qu'est née finalement une volonté de transformer les observations que je faisais en tant que militant en objet scientifique. Voilà, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, évidemment. Mais du coup, la spécificité de mes recherches, c'est que mes terrains d'engagement sont devenus mes objets de recherche, avec les biais que cela comporte, notamment avec le fait que des amis, des compagnons, des camarades de lutte sont devenus des objets de recherche, ce qui a pu créer pas mal de tensions, de conflits, et c'est comme ça, c'est le prix de la recherche, on va dire. Mais du coup, c'est vrai que mes terrains de recherche se situent en région parisienne et sur les terrains sur lesquels je me suis engagé, donc notamment en Essonne, à Corbeil-Essonne et dans tout le département de l'Essonne, mais je travaille aussi sur des communes du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis, puisque dans la continuité de mon précédent ouvrage, c'est vrai que c'est important de le dire, je travaille quand même beaucoup sur des collectivités, des villes qui sont marquées par l'histoire communiste, avec l'idée qu'il y a quand même un lien particulier entre l'histoire politique des quartiers populaires et le communisme municipal.
Alors l'idée qui a été amorcée dans le premier chapitre, c'est la suivante, c'est d'opérer opérer un renversement. Je vous cite, de regarder autrement le vide, d'écouter le vent. On va donner des exemples concrets de pratiques en quartier populaire qui sont politiques, à vous entendre. Il y a d'abord ces actions qui sont menées par les maires en quartier populaire, on en dit un mot.
C'est vrai que c'est des actions qui sont de plus en plus connues, alors qu'elles existent en fait depuis des décennies en quartier populaire, c'est-à-dire que les mères de famille ont une position symbolique particulière, et notamment sur certaines questions, ces dernières années ça a été beaucoup sur la question des conflits, des rixes entre jeunes, hein, elles se mobilisent en faisant appel finalement à un certain code des quartiers populaires et à leur place particulière dans ce code pour... faire prendre conscience aux jeunes des conséquences de leurs actes, et elles deviennent des interlocutrices très importantes, notamment pour les champs politiques locaux. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de souligner vraiment dans le livre, hein, c'est que là, pour le coup, on n'est pas dans l'exotisme, on est dans le réel, dans le concret, c'est-à-dire que ces mères de famille qui se mobilisent, elles le font en connaissance de cause, avec une analyse souvent très fine du terrain, avec une analyse très fine aussi des rapports entre les jeunes et les institutions, et comment elles doivent se positionner dans cet écosystème-là. Et très souvent, elles jouent un rôle que personne au sein du service public n'est capable de jouer. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ce que je veux souligner quand même aujourd'hui, quand je parle de ces mobilisations des mères de famille dans les quartiers, je tiens quand même toujours à préciser que, là encore, attention à l'exotisme. Sur la question des conflits entre jeunes, il n'y a pas que les mères qui se mobilisent, il y a aussi beaucoup les jeunes qui se mobilisent, hein. Quand on a l'organisation de toutes les marches blanches, par exemple, quand il y a un décès d'un jeune dans un quartier, c'est très souvent les jeunes amis, les jeunes garçons amis, du coup, qui organisent ces marches. Et il y a vraiment une forme d'alliance entre les mères de famille et les jeunes sur ces questions-là. Et parfois, les pouvoirs publics aiment bien, vous connaissez l'expression, hein, diviser pour mieux régner, c'est-à-dire mettre un peu trop en valeur les maires, mais aussi pour pouvoir continuer à stigmatiser les jeunes. Or, quand on observe ces pratiques-là sur le terrain, on voit qu'il y a une alliance politique très importante qui se fait. Et là, pour le coup, on est vraiment dans l'expression de compétences politiques particulières ancrées dans l'univers social des quartiers populaires, et donc qui sont le cœur, évidemment, de mes recherches.
Pour compléter sur la mobilisation des maires, ce sont même des initiatives qui se sont formalisées avec la création de syndicats comme Front de Maires, qu'on retrouve ici à Rennes et ailleurs en France. Pour citer d'autres exemples, en quatrième de couverture, on lit des émeutes urbaines à l'organisation spontanée de la solidarité pendant la crise sanitaire, de l'affirmation culturelle de la banlieue à travers le rap, et on va y revenir, au succès des mobilisations récentes contre le racisme et les violences policières. L'univers des quartiers fait état d'une présence politique indiscutable. On peut encore donner un autre exemple qu'on retrouve dans le livre, les Coupes d'Afrique des Nations dans les quartiers. C'est vrai que le sport occupe quand même une place particulière.
Oui. Alors,
et ça, le sport est politique.
Ça, c'est sûr que le sport et le foot dans les quartiers, qui est, on va dire, souvent on dit que quand on étudie les quartiers, il y a le thème du sport et puis il y a le thème du foot qu'il faut rajouter en plus du thème du sport, parce que le thème du football a une place vraiment, vraiment particulière. Et c'est vrai que moi je travaille sur les Coupes d'Afrique des Nations des quartiers, il y en a une à Rennes, hein, qui a un immense succès populaire, hein, comme dans de très nombreuses villes en France. Et j'essaye de montrer que finalement il y a d'abord eu un premier discours à l'égard de ces Coupes d'Afrique des Nations, hein. Le discours dominant et stigmatisant a voulu dire que c'était du communautarisme, voilà, que c'était des gens qui voulait faire sécession, et notamment même qui allait contre la Fédération française de football en faisant des compétitions alternatives, etc. Mais elles ont tellement été appropriées, à la fois évidemment par les jeunes concernés, mais aussi finalement par les institutions, les élus locaux, les partenaires, y compris privés, de ces manifestations, etc. Et du coup, c'est devenu des événements populaires, reconnus, et il ne vous a pas échappé que les élus... de tous bords, aujourd'hui, considèrent que c'est un petit peu incontournable d'aller mettre le nez là. Et souvent, c'est le signe quand même qu'on fait face à un événement politique. Mais des manifestations politiques comme celle-ci, il y en a très souvent dans les quartiers. Je voulais dire un mot quand même sur un événement qui a fait parler ces dernières semaines, hein, l'association Avenir, qui a organisé, à la suite des violences qu'il y a eu dans le quartier du Blône, un grand repas de solidarité en direction des habitants du Banat qui avaient subi les événements. Là aussi, pour moi, on est au cœur d'une expertise politique qui est ancrée dans les quartiers populaires, qui, à mon sens, est très en avance à l'égard des institutions, puisque pour ce qui est de cet événement, la municipalité n'était même pas revenue sur les lieux, et c'est une association locale qui a finalement créé l'espace de vivre ensemble, et finalement peut-être ce que devraient faire les pouvoirs publics, ils l'ont fait complètement à leur place. Et là, de ce point de vue-là, pour moi, pareil, on est dans la constitution d'une expertise politique, mais qui s'ancre dans une connaissance du terrain qui, à mon avis, mérite d'être largement explorée.
Alors le deuxième chapitre de Streetologie sur lequel on est toujours là, il comprend un détour par le rap français, lui aussi politique. Alors moi j'avais l'idée peut-être un peu simpliste que le rap contemporain dit commercial s'éloignait un peu jour après jour de la tonalité politique qu'on retrouvait dans le rap des années 80-90. C'est pas votre avis?
Bon, c'est un débat qui agite les spécialistes. C'est vrai que j'ai toujours du mal, évidemment, avec ces distinctions hein, qu'on nous impose, parfois, par exemple, entre rap conscient et un rap qui serait inconscient. Non, pour moi, si on regarde l'histoire sociale du rap en France, elle est ancrée à la fois dans les quartiers populaires, mais dans une aspiration à revendiquer une existence politique, hein, pour reprendre les mots du sociologue Abdelmalek Sayad. Et dans la revendication de cette existence politique, bah, évidemment, il y a des formes établies, des formes qu'on connaît, qui sont celles peut-être du rap des années 1980-90 qui, je vais le dire un petit peu simplement, mais qui correspondent un peu plus à ce qu'on veut lire par exemple dans un tract politique, hein, avec des mots, des structures argumentaires qui sont finalement celles de la gauche traditionnelle. Et puis aujourd'hui on a une expression des modes de vie dans les quartiers qui est peut-être plus alternative, qui est peut-être en un sens transformée. J'utilise beaucoup cette idée de transformation à emprunter à Lévi-Strauss, hein, c'est-à-dire qu'on a les mêmes structures d'opposition, les mêmes structures de contestation, mais elles sont dans une forme transformée qui fait qu'on a peut-être du mal à les voir. Et je trouve que le rap français aujourd'hui, même si après il y a des débats de mélomanes entre guillemets à avoir, mais le rap français contemporain présente encore cette spécificité de rendre compte d'une expérience très particulière qui est celle du mode de vie dans les quartiers populaires et donne à voir une forme d'opposition entre ce mode de vie et l'ordre social tel qu'il est. Et moi, c'est sur ces éléments-là que je me penche, et c'est peut-être sur ceci que j'insiste, hein, c'est-à-dire dans quelle mesure, quand on exprime un point de vue sur les modes de vie populaires, comment est-ce que ça rentre en contradiction finalement avec les récits dominants. Et ça, d'une certaine manière, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses très intéressantes dans le rap aujourd'hui.
Les fans de la série The Wire, pour continuer. Alors, série qu'on recommande à ceux qui ne l'ont pas vue pour comprendre les rouages qui sont à l'œuvre dans les quartiers populaires et qui entretiennent la précarité. Donc, ça se passe aux États-Unis, mais on y retrouve plein de points communs avec ce qui se passe ici en France. Les fans de la série trouveront une partie consacrée au personnage d'Omar dans votre livre. Et on va se diriger vers la fin, puis laisser le reste des découvertes aux auditeurs qui iront lire le livre. Quand même, avec ces mots en guise de conclusion, l'évitement du pire comme moteur. Explication de texte.
C'est vrai que je termine le livre sur ce texte, hein, qui est un texte remanié d'un texte qui a été écrit il y a deux ans, hein, qui est important pour moi. Je l'ai mis en fin d'ouvrage parce que c'est un texte qui est écrit dans la suite de la lecture d'un dialogue entre trois grands penseurs de la gauche du XXe siècle, hein, qui sont Étienne Balibar, qui me fait l'honneur de signer la préface du livre.
Philosophe.
Voilà, philosophe. Et deux philosophes italiens qui sont Mario Tronti et Tony Negri, malheureusement décédés cette année. L'idée de cette partie, on est dans un retour quand même historique sur ce qu'est le camp révolutionnaire. La pensée communiste révolutionnaire tout au long du XXe siècle a été capable de décrire un horizon heureux, comme dit la phrase qu'on se dit souvent avec des amis militants, de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale, hein. Donc voilà, hein, l'idée que finalement les difficultés endurées dans la lutte se faisaient au prix d'une perspective de transformation sociale heureuse. Et c'est vrai que cette pensée révolutionnaire, elle s'est confrontée, elle s'est malheureusement heurtée aussi à ses impasses historiques, à ses échecs aussi. Et certains penseurs, comme Mario Tronti, ont dit bah, peut-être que l'héritage que nous a donné la pensée révolutionnaire à la fin du XXe siècle, c'est de se dire que certes, on ne fait pas la révolution, mais peut-être on évite la catastrophe. Voilà. Et que d'une certaine manière, on peut voir le verre à moitié vide en se disant la pensée révolutionnaire n'a pas réussi à la hauteur de ce qu'on aurait souhaité. Et en même temps, on peut aussi se dire que si elle n'avait pas existé, le monde serait sans doute pire que ce qu'il est aujourd'hui.
C'est une forme d'humilité.
C'est une forme d'humilité et une forme de relecture, hein, peut-être à rebours aussi de ce qu'est la pensée révolutionnaire, mais que je trouve vraiment passionnante aujourd'hui, bah, par exemple dans le contexte de la catastrophe écologiste, hein, c'est-à-dire de dire qu'il ne faut jamais oublier que la pensée transformatrice, elle est toujours aussi à un point où elle évite finalement que le pire arrive. Et encore une fois, sans vouloir être obsessionnel avec la Kanakee Nouvelle-Calédonie, on est aussi sur ces questionnements-là. Et quand je travaille aussi sur les quartiers populaires, je montre que finalement beaucoup d'engagements, par exemple les engagements que les jeunes appellent les engagements pour les petits, pour les générations qui les suivent, que les petits finalement ne vivent pas ce que eux ont traversé. Il y a vraiment cette idée que finalement l'engagement minimal, l'engagement humble dont vous parlez, peut-être que c'est la base d'un acte révolutionnaire. Et c'est vrai que pour moi c'était très important de terminer le livre sur cette idée aussi pour donner de la force aussi à toutes celles et ceux que je vois s'engager dans les quartiers et ailleurs. C'est-à-dire que quand on bloque une situation catastrophique, on fait un acte révolutionnaire et c'est aussi un message que je veux faire passer aux gens que je vois tous les jours se battre pour que le monde soit un peu meilleur, quoi.
Je vous représente Ulysse Rabaté, vous êtes chercheur en sciences politiques à l'université Paris 8 et l'auteur de cet ouvrage dont on vient de parler, Streetologie, savoir de la rue et culture politique. C'est sorti aux éditions du Commun avec une préface, vous l'avez dit, signée du philosophe Étienne Balibar. Le tarif c'est 16 € et on vous retrouvera le 23 mai à partir de 18h du côté de la librairie Planète IO pour une rencontre, ça se passera juste en face au jeu de paume. Merci beaucoup. If you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon for the standing there sight. If you walk with Jesus, he'll save your soul. You gotta keep the devil down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be saved from Satan when the thunder rolls. You gotta keep the devil. Of Alabama avec le titre Way Down in the Hole. C'est le générique de la saison 1 de The Wire, cité dans le livre dont on vient de parler, en compagnie d'Ulysse Rabaté. Et à la base, c'est un morceau qui a été composé par Tom Waits, puis repris dans différentes versions dans cette série américaine. L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, c'est pas terminé, restez. On passe à la recommandation du jour. La recommandation du jour, c'est toujours en fin d'émission des conseils modestes d'événements à vivre près de chez vous, parfois aussi de quoi nourrir vos envies de lecture, de podcast ou de documentaire. Et aujourd'hui, deux conseils. D'abord, vous avez encore le temps de courir au Champ Libre à Rennes, qui accueille à partir de 18h30 la première édition de l'Info et vous. C'est une rencontre entre médias et citoyens qui a été imaginée par France Info en collaboration avec Ouest France. Ce temps d'échange, il se déroulera en trois temps, avec d'abord une restitution des résultats du d'une consultation menée en ligne sur ce sujet, sujet de l'information, puis échange avec des journalistes politiques avant un dialogue en compagnie d'un journaliste d'investigation, j'ai nommé Tristan Valec de Complément d'enquête. Des échanges informels sont ensuite prévus à partir de 21h. Les réservations, ça se passe sur le site maison de la radio et de la musique.fr. On prend ensuite un peu d'avance avec un mot rapidement sur la quinzaine du commerce équitable. C'est du 4 au 26 mai sur le territoire national et dans ce cadre, samedi prochain, le 18 mai à Rennes, la boutique associative Artisans du Monde ouvrira ses portes au public tout l'après-midi. L'occasion de rencontrer Anna Acuña Mollet, c'est la responsable de la coopérative du café et de cacao Maranura, implantée au Pérou. Un autre rendez-vous au grand public est par ailleurs organisé dimanche 2 juin. Ce sera une balade à vélo dans l'agglomération Malouine dans le cadre de la traditionnelle fête du vélo. On y retrouvera l'association Bretagne Sens, 4 lettres pour commerce équitable Nord-Sud, une association qui fera déguster des produits aux participants et qui présentera aussi les labels et une exposition toujours autour du commerce équitable bien sûr. C'est terminé, une émission d'information locale qui se veut réflexive et combative, à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus, salut.